Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission à propos de cette semaine. Nous sommes à l'hôtel Sheraton, à quelques centaines de mètres de notre bureau, avec plus de 330 ministres et leurs épouses, ainsi que les membres du personnel réunis pour cette conférence de 2023. Cette conférence a été extraordinaire. Elle était pleinement éducative et remplie de joie, d'énergie et d'enthousiasme. Nous allons vous donner un aperçu de cette conférence. Nous avons réuni ici toutes ces personnes et vous entendrez parler de l'impact de ce qu'elles ont appris sur la fraternité dans cette conférence à travers de nombreux aspects que nous allons vous montrer aujourd'hui. Nous rejoignons la conférence pendant qu'elle est encore en session. But surprisingly, perhaps, what way the members are helped by this is that they are good workers. Les travaux de la conférence ont en fait commencé dimanche avec une réunion pour tous les ministres internationaux et leurs épouses. Cette soirée était suivie d'un dîner barbecue texan au siège central pour accueillir tous les participants. Les membres des congrégations de Dallas et de Sherman ont préparé et servi le repas. Le temps était parfait, offrant une atmosphère confortable pour plusieurs heures de grande convivialité. Étant donné la participation à la conférence que c'était inférieure à la moyenne en raison des règles sanitaires liées à l'époque à la pandémie de Covid, de nombreux participants ne s'étaient pas vus depuis plusieurs années et avaient bien des nouvelles à échanger. Le lendemain lundi, les réunions ont commencé dès 9h du matin en s'appuyant sur le thème de la conférence « Des ouvriers proclamant et protégeant ensemble la vérité divine ». Le président Jim Franks a commencé par un discours d'introduction intitulé « Sommes-nous déjà arrivés ?» J'ai pris la suite en tant que représentant des opérations médiatiques sur le thème « Défendre la vérité en proclamant l'Évangile ». M. Orchuk, directeur des services ministériels, a présenté les nouveaux ministres ordonnés depuis la dernière conférence et a rendu hommage aux ministres et aux épouses décédées au cours des deux dernières années. Il a ensuite parlé du ministère comme formant une équipe. Après le repas de midi, M. Britton Taylor, notre trésorier, a développé le sujet « Dieu pourvoira à nos besoins ». Suivi de M. Joel Meeker, président du Conseil ministériel d'administration, dont le discours était intitulé « Dans un monde sauvage, un encouragement à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain ». Nous avons terminé la journée avec une session toujours émouvante, mais très fortifiante. La présentation de nos hommages à ceux qui ont atteint leurs 50 années de service dans le ministère. Cette année, parmi les personnalités honorées, se trouvaient Jim et Sharon Frank, Jim et Lois Affley, Steve et Vivian Moody, Dave et Linda Register, ainsi que Britton et Dola Taylor. J'aurais aimé pouvoir disposer de plus de 6 heures pour que vous puissiez voir ces présentations dans leur intégralité, mais c'est impossible. Voici quelques extraits.
Des ouvriers ensemble. C'est un thème qui en dit long sur ce que nous sommes ou peut-être sur ce que nous espérons être. Je veux souligner aujourd'hui que l'espoir n'est pas une très bonne stratégie. C'est encourageant, c'est utile, c'est nécessaire. Mais si votre stratégie consiste simplement à espérer le meilleur, alors ce n'est pas une très bonne stratégie. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, nous lisons « Car nous sommes ouvriers avec Dieu ». Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc ici, on nous dit encore que nous sommes des ouvriers ensemble et que nous sommes des compagnons de travail. Y avez-vous pensé déjà de cette façon? Nous sommes les compagnons de travail de Dieu. Vous savez, encore une fois, dans ce verset particulier, il n'est pas dit « ses subordonnés », bien que nous le soyons, évidemment. Mais nous sommes ses partenaires dans ce travail. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il existe un vaste bassin de ces talents qui se tiennent prêts à aider. Il y a une nouvelle génération dévouée et engagée qui s'élève dans l'Église de Dieu et qui veut être impliquée dans la construction. Il n'y a aucune raison pour que nous n'avancions pas avec énergie, innovation et avec une attitude positive. Et comme il est gratifiant de voir autant de gens se retrousser les manches et dire « reprenons le travail ». Sommes-nous déjà arrivés ? Je suis extrêmement heureux d'y être avec vous tous. Nous ne sommes pas encore arrivés. Je crois que nous pouvons tous être d'accord là-dessus, mais nous sommes en route.
J'ai dit que nous avions 1 123 219 utilisateurs uniques en avril, et c'est très bien. Et vous savez ce que ça représente? Vous savez ce que ça veut dire? C'est un nombre. Et les chiffres sont impersonnels. Les nombres ne sont que des traits d'encre sur une feuille de papier. Les nombres que nous examinons dans les rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels sont impersonnels. Ils nous aident à calculer d'autres données. Nous ne devons jamais nous perdre dans les chiffres. Il est tellement important de savoir s'arrêter et de se souvenir régulièrement de cela. Et je dirais que le meilleur moment pour s'arrêter et s'en souvenir, c'est dans ses prières, pour se rappeler que derrière chaque chiffre ou nombre se cache un être humain. Tout chiffre représente une personne. Il se peut que quelqu'un regarde une annonce en ce moment sur Facebook et pense à cliquer sur ce lien pour la consulter. Ce sont des êtres de chair qui s'intéressent. Vous prenez n'importe lequel de ces chiffres, et pour Dieu, c'est l'un de ses enfants. Il sait quelle est sa situation. Pour lui, c'est bien plus qu'un chiffre. Nous vous demandons certainement de vous joindre à nous, de vous joindre à nous pour prier que Dieu puisse atteindre plus de personnes, que ce soit simplement un outil supplémentaire pour toucher plus de gens et répandre ses semences. Mais je peux vous garantir que nous nous efforcerons de protéger et de défendre la vérité en proclamant l'Évangile.
Mais vous savez, il y a un dénominateur commun entre ceux qui sont nouveaux dans le ministère et ceux qui nous ont précédés et qui sont maintenant décédés. Et ce lien fait partie de la même équipe. Et je voulais tellement faire partie d'une équipe, surtout quand vous avez deux frères aînés qui ont soit des t-shirts et une casquette, soit un uniforme complet. C'était important pour moi d'avoir une casquette portant la lettre initiale de l'équipe, de porter un t-shirt ou un uniforme pour que vous puissiez vous asseoir sur le banc des joueurs s'il vous arrive d'être dans un match ou s'il y a un banc des joueurs. Vous savez, j'ai appris il y a longtemps, contrairement à ce que je pensais être à l'âge de 8 ans, que je n'ai pas besoin d'une casquette pour faire partie de l'équipe. Je n'ai pas besoin de cet uniforme dont j'avais tellement envie quand j'avais 8 ans pour faire partie de l'équipe. Vous et moi, nous faisons partie d'une équipe liée par une vocation commune, un travail, une responsabilité commune, une envie mutuelle de se soutenir les uns les autres. Il ne s'agit pas de marquer des points ou de marquer des buts, des paniers, de remporter une course ou de gagner un match dans un sens, parce que nous ne jouerons pas à un jeu, mais de s'impliquer dans une œuvre, dans un but qui amènera au sein de l'humanité un changement que personne ne croyait possible. Le thème de cette conférence est « Des ouvriers ensemble pour proclamer et protéger la vérité de Dieu ». Nous devons travailler ensemble dans le domaine financier de l'Église. Vous tous, en tant qu'anciens, vous avez des rôles de responsables dans vos différentes congrégations. Nous vous demandons de faire de votre mieux pour vous conduire ainsi que vos congrégations d'une manière financière prudente. Ensemble, nous avons protégé la vérité de Dieu. Ensemble, nous nous concentrons sur la proclamation de la vérité de Dieu au monde entier. Nous devons travailler ensemble pour pouvoir le faire. Nous avons toujours pu le faire jusqu'à présent, et j'ai confiance en Dieu et en vous que nous continuerons de le faire. Mais dans toute notre planification, dans toute notre préparation, dans toutes les inquiétudes que je peux avoir, je n'ai aucun doute que Dieu pourvoira à nos besoins. Et regardons brièvement maintenant, si vous me le permettez, les ressources que l'Église dépense pour la stabilité des congrégations de l'Église. Une partie de la protection de la vérité est d'être capable de la défendre et d'être capable de la protéger. Cela nécessite un ministère, cela nécessite des congrégations, des bâtiments pour les assemblées, l'Institut du fondement, et ainsi de suite, afin de pouvoir le faire. Nous devons nous concentrer sur nos ressources, car nos ressources ne sont pas illimitées, mais nous avons été bénis. Nous voulons faire de notre mieux pour gérer les fonds que Dieu nous a donnés. Je pense que cela devrait être clair pour nous. Nous pouvons déjà voir comment les éléments caractéristiques d'une tribu devraient être trouvés dans l'Église. Cela s'appelle une famille. Mais les tribus sont une structure biblique et les tribus sont tout simplement des familles élargies. Ainsi, certains éléments intéressants et typiques des tribus trouvent leur place dans l'Église, là où chacun pourra se sentir utile, là où notre identité de groupe et notre éthique priment souvent sur nos propres objectifs et sur nos préférences personnelles. Je suis à la fois très reconnaissant, très ému d'avoir ce privilège de pouvoir m'adresser aujourd'hui à des hommes et à des femmes qui ont consacré leur vie à une vocation supérieure. Ils ont consacré leur vie à servir l'Église de Dieu et à servir Dieu. Et c'est de cela dont nous parlons. Nous parlons d'un appel supérieur. Alors je vous demande de réfléchir à la question aujourd'hui. Pouvons-nous faire plus? Y a-t-il quelque chose de plus que je puisse faire dans mon coin de travail, là où j'opère, là où je sers Dieu? Est-ce que je peux faire plus dans ma prédication, dans mon enseignement, dans mon exemple, au sein de nos activités, pour promouvoir une identité familiale, de groupe dans l'Église, en tant que personne choisie individuellement par Dieu pour recevoir sa faveur spéciale et sa grâce? Le psaume 33 au verset 8 et 9 nous dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Nous devrions revêtir notre petit moi quand nous pensons à Dieu. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Le psaume 119 verset 161 dit « Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles ». La crainte de l'Éternel est un autre mot qui définit notre admiration envers notre Créateur. Et pour que les gens reçoivent la grâce de Dieu en vain, il faut qu'ils perdent leur crainte respectueuse de Dieu, parce qu'une personne qui est dans cette crainte de Dieu ne va pas s'éloigner de cette relation. Je vous suggère d'y réfléchir, car nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider nos frères et sœurs à garder et à chérir ce sentiment de respect avec cette crainte de l'Éternel. Si nous craignons Dieu, nous ne recevrons pas la grâce de Dieu en vain.
Mardi était une autre journée complète avec un rapport de M. Leon Walker, notre agent de liaison internationale, sur notre travail dans les régions de langue espagnole, suivi des rapports de Messieurs David Baker sur l'Asie et l'Australie, Arnold Hampton sur les Caraïbes, Joël Meeker sur la région francophone, Peter Hawkins sur l'Angleterre et l'Europe, André Van Belkom sur la Nouvelle-Zélande et Neville Smith sur l'Afrique du Sud. Juste avant le repas de midi, Monsieur David Register et Mme Rhonda Waddell ont présenté pendant une heure le travail accompli par la Fondation FOI. L'après-midi, nous avons écouté les rapports de M. Frank sur le programme international de leadership, du Dr. Ralph Levy sur l'Institut du Fondement et de M. David Meyer sur certains des programmes éducatifs destinés aux membres. Après une courte pause, nous avons écouté dans l'heure suivante ce qui est devenu une tradition très prisée depuis les trois dernières conférences intitulées « Perspectives des nouveaux ministres » avec trois discours. Sur des pasteurs nouvellement embauchés, M. Messerly, Ricker et Fultz. C'était chargé d'émotions. M. Franks a ensuite conclu ses deux journées remplies en présentant ses remarques finales. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains des participants au cours de ces deux journées et de discuter un peu avec eux de leur réaction par rapport à ce qu'ils ont entendu et vécu au cours de cette conférence. J'aimerais interviewer quelques-uns de ceux qui ont assisté aux réunions internationales dimanche. Nous avons fait les choses un peu différemment cette année par rapport aux conférences précédentes. Nous avions organisé une réunion d'une journée pour le ministère international après la conférence. Mais cette année, nous voulions le faire avant la conférence pour donner à chacun la possibilité d'être de retour à temps pour la Pentecôte. Et les préparatifs de voyage de ceux qui se rendraient de l'autre côté du monde pour ce faire allaient certainement être un peu plus difficiles. Nous avons donc eu un dimanche réservé aux réunions du ministère international avec des présentations d'un aperçu par M. Jim Franks et M. Walker, notre agent de liaison internationale. Ensuite, nous nous sommes concentrés entièrement sur la façon dont nous observons la fête des tabernacles. Et ce jour-là, nous avons également eu des séances sur la planification, l'organisation, la budgétisation et les présentations pendant la fête, toute la journée ayant été consacrée uniquement à ces thèmes. J'ai donc eu l'occasion de m'asseoir en compagnie de quelques-uns des participants. Quelles sont les choses que vous avez retenues de la réunion d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous semblait particulièrement intéressant ou utile? Ou quelle réaction avez-vous eue par rapport à ce que vous avez pu entendre?
Eh bien, je pense que l'une des choses en particulier que je puisse retenir, c'est l'importance de la fête des tabernacles elle-même. Monsieur Franks a expliqué comment la fête peut être considérée comme un baromètre de la santé de l'Église. Et vous pouvez noter dans le tableau des fluctuations de la fréquentation à la fête au fil des ans, comment celle-ci a diminué en période de difficulté. Et vous pouvez également voir l'expansion du nombre en période de grande croissance spirituelle. Cela nous fait comprendre que nous devons nous préparer. Nous devons nous assurer que nous apportons ce qu'il faut pour préparer une fête des tabernacles spirituellement édifiante pour les membres. Et bien sûr, il est fondamental de bien s'assurer que les messages que nous présentons à la fête transmettent vraiment ce qu'elles signifient, en donnant une image claire des événements qui s'en viennent. Car nous savons évidemment que les jours saints sont l'ombre des choses à venir. Ainsi, il s'agit pour nous d'être en mesure d'aider nos frères et sœurs à garder en eux la vivacité de cet objectif du royaume, cet enthousiasme et aussi cet espoir d'un avenir meilleur que Dieu prépare et qu'il nous donnera en temps et en heure. L'une des choses que je retiens et que j'aimerais approfondir concerne le contenu des messages. Le contenu au moyen de l'analogie m'a vraiment impressionné. La préparation d'un repas, par exemple, on apprécie toujours un bon repas. Et comme on l'a dit, les repas n'apparaissent pas tout seuls, bien préparés comme ça. Il faut de la préparation, du dévouement, et puis il faut aussi des ingrédients. Ensuite, tout cela doit être appliqué dans le domaine de notre préparation pour la nourriture spirituelle. Cela demande des efforts et cela demandera des efforts et du travail en coordination avec les personnes qui viennent aux assemblées. Je pense qu'en gardant cela à l'esprit, nous aurons une meilleure fête cette année.
Eh bien, Peter, vous êtes ici pour la première fois.
Oui.
Vous venez d'être ordonné.
Le 24 septembre dernier.
C'était quand exactement? Le 24 septembre dernier.
Oh, merci.
Bienvenue. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence?
Eh bien, c'est l'unité. L'unité du Saint-Esprit de Dieu, il remplit littéralement cette salle de conférence. Je veux dire que vous ressentez son influence, que ce fil conducteur du Saint-Esprit de Dieu est parmi tous les compagnons serviteurs de Dieu et présent dans notre thème des ouvriers ensemble. Et les présentations nous ont rapprochés et unifiés, cela nous a renforcés.
C'est donc votre première conférence et j'espère qu'elle sera suivie de beaucoup d'autres. Je suis sûr que tout le monde a une idée de ce à quoi ressemble une conférence lorsque vous y assistez personnellement. Quelles sont vos impressions de cette conférence? Qu'emportez-vous et qu'allez-vous rapporter aux membres?
Oh, bien sûr. Je veux dire, d'après mes observations, il y a un incroyable esprit d'unité, une unité de but, en quelque sorte, face à l'ampleur des responsabilités impliquées. Et c'est vraiment encourageant pour moi de voir tout le monde sur la même page, d'avancer dans la même direction. Et c'était aussi une source d'inspiration pour moi de voir cette célébration. Vous savez, ces 50 années de service, le dévouement partagé par toutes ces personnes, ainsi que certains des commentaires de leurs collègues et des membres de leur famille. C'était très touchant et très encourageant pour moi. Cela me permet de, vous savez, de repartir à bloc, de travailler encore plus dur.
C'est vrai. Cela a été vraiment une grande bénédiction pour nous. Je pense d'abord que c'est une leçon d'humilité que d'être invité, ensuite de pouvoir venir. C'est vraiment émouvant pour moi de pouvoir renouer avec certaines personnes. Et James a raison, l'unité que nous avons vécue, nous avons vu les membres plus âgés présents ici, qui dirigent et qui servent, tous sont des exemples. C'est vraiment inspirant de faire partie de ce groupe.
Je suis très heureux de vous revoir avec nous. Nous avons en commun une longue amitié depuis de nombreuses années. Et ici, nous accordons beaucoup d'importance à l'accueil des veuves d'anciens à ces conférences. Nous pensons que c'est important. C'est d'une grande valeur pour nous. J'aimerais savoir à mon tour quelle en est la valeur pour vous et ce que vous en retirez en venant à ces conférences.
Eh bien, c'est formidable. Vous savez, quand vous avez été l'épouse d'un ancien, c'est une grande partie de votre vie. Et soudain, quand votre mari décède, tout change. Et ici, vous recevez cette stabilité en sachant que vous pouvez toujours servir dans l'Église et que vous êtes toujours considéré comme étant utile d'une certaine manière. Quelqu'un m'a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'autres organisations ecclésiastiques qui impliquent à ce point les veuves des anciens. C'est donc inouï de pouvoir être ici. J'aime venir entendre ce qui se passe et ce qui est le plus important dans ma vie, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Et ça me recharge de voir de vieux amis qui sont presque une partie de ma famille.
Vous avez donc assisté à de très nombreuses conférences, contrairement à certaines de mes entrevues avec ceux dont cette conférence est la première. Que retenez-vous de cette conférence et des participants?
Eh bien, l'impact est énorme. Évidemment, il y a un esprit formidable dans la salle. Tout le monde est ami, vous pouvez le voir. En fait, j'assiste à des conférences depuis 1970 et j'ai assisté à de très bonnes conférences, à des conférences frustrante aussi, et même des conférences où il y avait tellement de tensions entre les groupes d'anciens qu'il fallait presque éviter certaines personnes. C'est une façon vraiment terrible pour le ministère de se réunir. Cela n'accomplit vraiment rien de valable. Or, dans cette conférence, la paix règne à tous les niveaux et nous savons que dans l'organisation, nous avons des anciens internationaux ici qui partagent leur expérience. Et le fait d'écouter les jeunes hommes ou même les moins jeunes, en particulier les gens qui ont été nouvellement embauchés, c'est vraiment très inspirant. La structure globale ne recherche ni la force ni l'oppression. Il s'agit au contraire d'une coopération, même comme il est dit dans notre thème. Et l'attitude ici, à la fin de la conférence, c'est que tout le monde est positif. Et même les gens n'ont pas vraiment envie de partir, dans un sens, ils voudraient rester. Et la raison en est simplement l'amitié, la camaraderie et le fait d'appartenir à la même équipe. Et c'est clairement évident quand on passe du temps ensemble.
Beaucoup de choses ont changé pour vous au cours des deux dernières années. Vous êtes maintenant pasteur. Et que retenez-vous de cette conférence et qu'allez-vous apporter aux membres de votre congrégation? Comment cette conférence vous a-t-elle affecté?
Eh bien, la première chose que j'ai apprise, sans aucun doute, c'est de voir tous les ministres du monde et revenir après la dernière édition de la conférence. Les gens sont venus d'Asie, d'Afrique et certains aussi d'Europe. Il y a tous les ministres d'Amérique latine. Nous nous sommes tous réunis avec cet esprit de la Pentecôte. Je pense que la conférence a souligné quelque chose de spécial. Nous avons parlé de l'esprit d'équipe. Nous avons parlé de notre devoir d'être ensemble, nous tous, dans ce projet. Nous parlons de la réalité de ce que nous vivons ces jours-ci, tel que nous le vivons en tant qu'Église. C'est très agréable pour nous de pouvoir transmettre à la congrégation, là-bas dans le sud du Chili, cet esprit d'équipe présent ici, et aussi les projets. C'est très agréable de voir le travail d'équipe de la direction, de voir les administrateurs ensemble parler clairement avec des objectifs bien définis. Et cela nous donne évidemment une grande confiance en Dieu, en sachant que son travail est effectué de la bonne manière.
Je suis toujours inspiré lorsque les ministres célèbrent leurs 50 ans de service, de voir qu'ils ont consacré presque toute leur vie au service de l'Église et de voir l'unité dans laquelle ils travaillent ensemble, comme l'a dit mon mari. Nous voulons ramener cela avec nous à la congrégation au Chili et pouvoir l'appliquer aux petits groupes de responsables dans la congrégation de Talca. L'exemple que ces hommes ont montré, leur façon de travailler et leur dévouement dans leur service de Dieu.
Ce n'était vraiment qu'un bref aperçu de la conférence. Nous avons reçu tellement pendant ces trois journées et j'aurais aimé que tout le monde puisse être ici pour en faire l'expérience. Mais j'espère que ce bref exposé vous a quand même permis d'en obtenir un bon aperçu. Et maintenant, nous avons déjà hâte de nous retrouver ici, si Dieu le veut, dans 2 ans pour la conférence de 2025. Eh bien, ce sera ma conclusion pour cette semaine et je suis sûr que vos pasteurs et vos anciens rapporteront une grande partie de leur expérience à cette occasion. Au revoir, un de ces jours.